With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Super Green Me est un podcast documentaire dans lequel je me lance le défi de vivre pendant 6 mois selon l'accord de Paris. Pour bien suivre ma transition écologique, je vous conseille d'écouter la série à partir du premier épisode. Bonne écoute. Super Green Me, ma transition écologique, épisode 6. Je ne suis pas, mais alors pas du tout, du matin. Je suis en vacances, j'aurais pu faire la grasse matinée, mais ce matin je me suis réveillé aux aurores. J'avais pas le choix, son emploi du temps est très chargé et je voulais absolument discuter avec lui et vous le faire entendre. Il s'appelle Thomas et sur internet il est connu sous le pseudonyme de Bon Pote. Bon Pote, c'est son pseudo, mais c'est aussi le nom du média indépendant qu'il a fondé qui alerte sur le changement climatique. Si j'ai voulu lui parler ce matin, c'est pas pour son côté bon pote. C'est Thomas que je veux rencontrer aujourd'hui.
Hello, hello. Est-ce qu'on m'entend ?
Hello Thomas, ouais, je t'entends.
Ce qui m'intéresse, égoïstement, c'est vrai, c'est d'avoir le récit de sa transition écologique à lui. Comment ça s'est passé, si ça a été difficile, et glaner au passage quelques conseils. Parce qu'un mec qui a bossé plus de 10 ans dans la finance et qui plaque tout pour se consacrer à 100% à l'environnement, franchement, ça court pas les rues. En réglant son micro et sa caméra, il commence par me dire qu'il y a 2-3 ans, il avait une empreinte carbone de 10 à 12 tonnes d'équivalent CO2 par an. Depuis, il a complètement changé son mode de vie et aujourd'hui, son empreinte est à 3 tonnes. Spontanément, je lui demande s'il a encore des plaisirs dans la vie ou s'il est devenu complètement dépressif.
Pas encore dépressif. Non, on peut très bien profiter. Et ça, c'est un message que j'aimerais un peu plus passer. C'est que typiquement, j'ai vraiment réduit mon mode de vie. On va dire, déjà, je prends plus l'avion. Je le reprendrai peut-être, mais là, je le prends plus. Je me déplace majoritairement en transport en commun et Vélib parce que j'habite Paris et que c'est plus facile ici. Quand je vais dans le sud, je descends en TGV, mais c'était déjà le cas depuis 15 ans. J'ai arrêté la viande. Ça, c'est le petit truc un petit peu chiant qui, moi, adorait manger des doubles burgers avant. Et c'est surtout par rapport aux amis qui t'invitent. Tu sais, l'été, pendant qu'il y a un barbecue, typiquement, t'es encore l'ami écolo. T'es un peu le mec marginalisé sur le côté. T'arrives quand même à sortir quelques blagues, mais il faut savoir aussi les encaisser, parce qu'il y a un coût social derrière le fait d'arrêter la viande. Et sinon, non, il y a pas. Je me prive pas vraiment. Je continue à voir mes amis. C'est juste, il y a 2 ou 3 trucs qui changent, mais je continue totalement de vivre.
Ce qui, franchement, est plutôt une bonne nouvelle déjà. Et même si je m'en doutais, ça me rassure un peu, en vrai. Et je vous le disais, moi, ce qui m'a fait changer, mon déclic écolo perso, c'est d'avoir lu des études, des articles scientifiques. Et à partir de là, tout doucement, c'était foutu. Depuis, je vois tout sous le prisme de l'écologie. Je me demande quel a été le déclic pour Thomas.
On parle souvent d'un déclic, mais en fait, ça vient, je pense, petit à petit. J'étais conscient déjà de ces enjeux-là il y a des années. J'ai toujours été un peu baigné là-dedans avec un papa végétarien, un frère qui est devenu vegan depuis 10 ans, etc., et qui me parlait de ces sujets-là. En revanche, j'avais pas encore vraiment la bascule, et je crois que vraiment la grosse bascule, c'est d'avoir mis le nez dans les chiffres. Je dois être un petit geek des chiffres, mon côté finance, etc. J'ai reproduit ça, cette passion-là, entre parenthèses, dans un rapport du GIEC. Et une fois que tu lis, je pense que c'est vraiment une grosse différence parce que tu entends depuis 20 ans que bon, c'est la merde, il faut changer, etc. En revanche, une fois que tu mets le nez dedans, je pense qu'il faut une demi-heure, une heure, et tu vois concrètement les chiffres et les changements nécessaires, je pense que là, ça met vraiment une vraie claque. Et enfin, il n'y a pas de point de non-retour, en fait. Une fois que tu as lu ça, j'ai continué à creuser, et plus tu en sais, plus tu sais que tu ne sais rien, ou que tu sais très peu plutôt. En revanche, tu sais qu'il y a un changement nécessaire, drastique à faire, et qu'on est très très loin de le faire. Ouais. C'est mon cas perso, mais il n'y a pas de vérité unique en fait. Chacun est sensible différemment, certains vont être sensibles aux chiffres, d'autres il va falloir jouer sur le pathos. Pour certaines autres personnes, il va falloir attendre qu'il fasse 50 degrés dans leur ville ou qu'il y ait une inondation, etc. pour qu'ils se rendent compte que, ah oui, effectivement, ça arrive. Il y a des catastrophes climatiques et en plus, ça arrive en France également. Donc ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens, et je pense que c'est une majorité de Français d'ailleurs, et j'arrête pas de le répéter, les chiffres, on s'en fout. On veut juste savoir à peu près ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Je pense que l'art, enfin j'arrête pas de dire que l'art, ça passera par l'art et tu vois, peut-être en regardant des films ou voilà, en allant voir des expos plus qu'en lisant un rapport du GIEC, quoi, qui emmerde, pour être très honnête, hein, même si moi j'aime bien, qui emmerde 99% des gens. Donc, voilà.
Et donc du coup, tu as commencé à regarder ce rapport du GIEC, tu as commencé à voir les chiffres et tu commences à amorcer cette bascule. Très très concrètement, par quoi ça a commencé ?
La première chose que j'ai faite, ça a été d'arrêter la viande. Et c'est vraiment, enfin, c'est du jour au lendemain, hein. C'est-à-dire que t'es avec tes collègues, tu manges un steak, etc. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté, je me suis dit, ok, je vais voir, je vais d'abord réduire. Et petit à petit, je me suis dit, bon, en fait, ça va, je peux continuer à vivre. Donc j'ai essayé un peu de compenser, etc. Et finalement, j'ai tenu. Je pense que la deuxième chose, ça a été l'avion. Bon, ça a été facilité avec le Covid, donc les traversées de l'Atlantique ou ce genre de choses. Là, je suis, pour ma petite vie perso, je regardais pour aller voir des aurores boréales récemment. Là, j'ai regardé un peu ça tout le week-end. Et c'est vrai que sans avion, c'est quand même beaucoup plus ennuyant, mais il faut avoir le temps, en fait. C'est juste ça la différence. Mais je pense que le voyage, je serais non seulement fier de le faire, mais apparemment, c'est très sympa aussi de le faire en train et de passer par Stockholm, etc. Donc, c'est juste une vision différente du voyage. Tu voyages vraiment, en fait. Tu consommes un peu moins et tu voyages un peu plus.
C'est marrant, quand même, cette similitude entre nous deux. C'était pas prévu du tout, mais ça fait bizarre parce que je me retrouve vraiment dans tout ce qu'il raconte. Une prise de conscience qui se fait en douceur après avoir lu des rapports, la viande comme première action de sa transition écologique. Mais vu qu'on se ressemble autant, je me demande s'il a rencontré des difficultés auxquelles, moi aussi, je pourrais du coup être confronté.
Pas vraiment. Moi, j'estime que je suis un privilégié. Hein. Donc à partir du moment... Je pense qu'en plus, quand tu vis à Paris, c'est plus facile de te déplacer. J'aime bien marcher et il y a des Vélib à disposition. C'est 3€ l'abonnement au mois. Donc, c'est vraiment pas difficile de te déplacer, de traverser ta ville. Ce serait peut-être beaucoup plus difficile si j'habitais en province. Enfin, cet été, j'étais dans le sud pendant 4 mois, sans voiture dans le sud. Bon, enfin, je suis allé en vélo typiquement au village aller chercher mon pain. Bon, tout le monde me regardait, j'étais un peu un extraterrestre. Hein. Donc, je pense que c'est plus dur dans le sud. Enfin, dans le sud, je fais une généralité, c'est autour d'Aix-en-Provence, etc., dans les Bouches-du-Rhône. Mais non, moi, j'ai pas connu de difficultés particulières. Mais mon cas, encore une fois, n'est pas une généralité, donc...
Encore une bonne nouvelle, mais ça m'intrigue un peu. Parce qu'honnêtement, je pense qu'il y a des trucs chiants quand même dans une transition écologique. Par exemple, le zéro déchet. Du coup, je lui demande quels sont ses gestes écolos du quotidien.
Ça, c'est... Très difficile, le zéro déchet, j'ai pas ça, et je pense que c'est beaucoup d'efforts, on en parle beaucoup, je vois que c'est un focus, vraiment, il y a un gros focus là-dessus, mais je pense que c'est beaucoup d'efforts pour peu de gains. Il y a une charge mentale énorme à faire du zéro déchet, et encore une fois, là, on parle beaucoup de gestes individuels, mais il faut aussi, malgré tous les efforts que moi j'ai pu faire et que je pourrais encore faire, il faut aussi que les industriels s'y mettent, que l'État, que les collectivités locales puissent aider, etc. Parce qu'en fait, ça devient impossible. Le changement ne doit pas reposer uniquement sur les individus. Donc.
Et donc du coup, t'arrêtes de manger la viande, tu prends plus l'avion, tu continues, jusqu'au point où, tu le disais, t'étais dans la finance et tu quittes ton travail, qui est un travail qu'on peut qualifier de assez polluant, et tu vas consacrer 100% de ton temps, du coup, à l'environnement et au climat. Est-ce que ça a été une décision difficile ?
Alors, ça a été une décision difficile. Alors, j'avais le métier, entre parenthèses, le plus éthique qu'on puisse faire en finance, donc surveiller l'activité des traders, mais ça ne suffisait pas, éthiquement parlant, et surtout, je sentais que j'avais besoin de mettre 100% de mon énergie ailleurs. J'ai eu la chance, encore une fois, de privilégier, de me dire « Ok, je quitte et pendant un an, j'essaye. Si ça marche pas, tant pis, je retourne en finance verte. » Donc ça, c'est vraiment une chance de pouvoir le faire. Et puis bon pote a fait, enfin là ça a marché. Ça a marché aussi parce que je travaille à peu près deux fois plus qu'en finance pour gagner cinq fois moins. Mais bon, voilà, je ne faisais pas ça pour ça. Mais ça a été une division difficile un petit peu au début, avant de le faire, évidemment, puisque tu te dis, est-ce que tu le fais vraiment, etc. Mais en fait, j'en pouvais plus, en fait. La dissonance cognitive, au fond de moi, était trop forte. Et je voulais vraiment mettre 100% de mon énergie et je n'ai pas une seconde de regret de l'avoir fait. Et c'est pour ça que j'encourage, je suis un peu le petit diable dans la tête des gens, parce que j'ai des gens quotidiennement qui m'écrivent pour savoir est-ce que mon métier est éthique ou pas. Bon, en général, si les gens se posent la question, c'est que c'est non. Et puis, c'est très personnel l'éthique, donc voilà. Et ensuite, je les pousse à, bah voilà, voilà les conditions en tant que conseil. Moi, je peux pas prendre la décision pour vous, mais moi, je regrette pas. Donc après, si vous êtes prêt à X ou Y, enfin, faites-le, quoi.
Est-ce que tu t'es intéressé, toi, l'ancien financier, à ton argent? Est-ce que tu as changé de banque? Est-ce que tu... Alors bon, sans rentrer évidemment dans les détails, mais est-ce que tu avais peut-être de l'épargne et tu t'es dit, bah en fait, c'est pas un bon système, je peux l'utiliser autrement, ou est-ce que t'es pas allé encore jusque-là, toi?
Alors, c'est un sujet, je suis dans la moins pire des grandes banques, mais effectivement, le choix de la banque et de votre épargne a de l'importance. Pour la faire très vite et en résumé, il faut sortir des grandes banques françaises. Donc typiquement BNP, Société Générale et Crédit Agricole, c'est une horreur. Enfin, l'intensité carbone de votre épargne, c'est vraiment pas bon. Donc sortez de ces banques-là si possible. Mais encore une fois, ça va être un arbitrage pour chaque personne. Ça veut dire que si tu dois faire un emprunt typiquement pour acheter ta maison ou une voiture ou je sais pas quoi, les gens n'auront pas... Enfin, tout ce qui va compter, en fait, c'est le rendement et c'est les intérêts que tu vas payer. Malheureusement, il faudrait prendre en compte l'impact carbone que ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as terminé ta transition ou quasiment terminé? Et sinon, qu'est-ce qui te reste à accomplir? Parce que là, tu es à 3 tonnes, donc tu es à ça d'arriver sur le bon objectif.
Je pense qu'on n'a jamais fini de se transformer. On évolue en permanence. Je pense que j'ai atteint un niveau, une empreinte carbone, entre parenthèses, où les efforts pour les c'est plutôt un grand effort pour les gains, pour un petit gain. Donc là, je préfère, la logique des choses, c'est d'aider les autres plutôt. Parce qu'il y a plein de gens, dont mon entourage, dont les Français. Enfin, le sujet climatique est très minoritaire. Dès qu'on sort un peu notre petite bulle, on s'en rend très vite compte. Donc je pense que j'ai plus d'impact en aidant les autres. Quelqu'un qui n'est pas du tout au courant et qui prend l'avion 10 fois par an, bah, si cette personne, typiquement, elle arrête de faire 10 longs courriers par année et qu'elle en fait plus que 2 ou 1, ça aura énormément plus d'impact que moi qui arrête de manger 3 œufs une fois le week-end. Tu vois. Enfin, je plaisante à moitié, mais c'est à peu près ça. Donc là, mon but, vraiment, c'est d'aider les autres. Je pense que c'est ça qui a le plus d'impact. Ouais.
C'est tout bête ce que dit Thomas, mais j'y avais jamais pensé comme ça. Si je fais ce podcast, c'est pour vous transmettre mon expérience, vous aider très concrètement à vous lancer vous aussi. Mais j'avais pas forcément pris la mesure de ce qu'il explique, de l'ampleur que potentiellement peut avoir mon documentaire. Qu'il va peut-être, je l'espère en tout cas, éviter des émissions de gaz à effet de serre. Et ça montre bien qu'en fait, quand on fait sa transition écologique, avoir le CO2 en tête, c'est bien, mais c'est clairement pas tout.
Je pousse la décroissance, donc c'est vraiment réduire l'empreinte sur le vivant. Donc ma logique maintenant et aujourd'hui, là, comme je vis, c'est « Ok, je vais faire quelque chose, typiquement partir en vacances ici, ou manger ça, ou faire ça. » Je me demande systématiquement quel impact ça a et pour qui. Donc, il n'y a pas que du CO2, il y a évidemment l'extractivisme. Le fait, typiquement, de changer de téléphone, enfin, ça, je le faisais, en fait, j'étais écolo dans l'âme bien avant, mais j'avais un téléphone depuis 7 ans, bah, je sais que ça, ça a un impact, typiquement. Donc, je ne vais pas, pour les écrans, je vais chercher plutôt de l'occasion, etc. Je réfléchis, ma vie est régie par ça aujourd'hui. Donc, dans un monde à peu près normal, tout le monde devrait se dire, avant de faire quelque chose, quel est l'impact positif ou négatif et est-ce que je le fais ou pas? L'important, c'est d'être informé. Après, il y a des gens qui n'en ont rien à faire. Bon, tant mieux ou tant pis. Et c'est pour ça qu'il faut des lois. Mais le plus important, c'est d'informer les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros, gros déficit d'information.
Et justement, sur l'information, je trouve que ce qui nous manque le plus cruellement, et en tout cas, moi, c'est ce qui me manquait quand j'ai attaqué ma transition, et je pense très sincèrement que je ne suis pas le seul, c'est les ordres de grandeur. C'est-à-dire que entre mettre une bouteille plastique dans la poubelle jaune du recyclage ou ne pas manger un steak ou ne pas prendre un avion, on met tout sur le même plan. Et je trouve qu'il y a un énorme déficit là-dessus.
Alors ça, je te rejoins totalement, parce que c'est mon ressenti, c'est pour ça que j'ai lancé ce qu'on appelle les ordres de grandeur. Je poste chaque lundi un ordre de grandeur. Et pour être un petit peu taquin, sur Instagram, typiquement, je sais pas pourquoi, mais il y a un gros focus sur le zéro déchet. Donc, tu vois des personnes qui se disent, voilà, moi, je suis écolo, je pratique le zéro déchet ou j'essaye le plus possible. Et tu vois la photo d'après, ça part en vacances à Dubaï, ça part en vacances à Bali, à New York, etc. Et moi, j'ai envie de me mettre la tête dans le mur. Je fais, mais enfin, c'est une plaisanterie, t'es pas du tout écolo. Tu te rends pas compte que ton aller-retour, en fait, l'aller-retour à New York, donc on le rappelle, c'est environ 2 tonnes de CO2 équivalent. Et donc, c'est ton budget carbone à l'année. Donc, tu peux très bien faire du zéro déchet chez toi, mais à la seconde où tu vas à New York, c'est fini. En fait, tous tes efforts sont ruinés. Et là, la personne est là. Ah bon? Mais OK. Donc, là, à chaque fois, j'essaye. Quand la personne ne le prend pas mal, en plus, j'envoie toujours en privé. Je privilégie les conversations privées. Le message passe mieux. Bah, les ordres de grandeur sur l'avion et les ordres de grandeur, voilà.
Justement, voici quelques ordres de grandeur sur l'avion publiés par Thomas. Il le disait, un Paris-New York aller-retour, c'est environ 2 tonnes de CO2. Soit la totalité de notre budget annuel prévu par les accords de Paris. Paris-Tokyo, aller-retour, 4 tonnes, donc le budget carbone de 2 années, et 7 tonnes pour un Paris-Sydney aller-retour, c'est plus de 3 ans de budget carbone.
Une toute dernière question, après je te libère, Thomas. Là, on enregistre le 20 décembre, donc c'est bientôt Noël, je descends dans ma famille en train, et je vais devoir faire un premier Noël sans viande. En leur annonçant que j'ai entamé ma transition et que je vais faire attention à tout, et donc je vais être le petit écolo de la famille. Toi, donc du coup, t'as vécu ça, mais ta famille était visiblement plus tolérante là-dessus. Comment ça s'est passé, toi, ton premier Noël
Le premier Noël, ça a été assez surprenant. Tu sais, c'est toujours la phrase « Oh chérie, quand même, c'est Noël, tu peux manger de la viande, arrête avec tes trucs ». Ça a été un petit peu compliqué pour le premier, mais j'ai tenu. J'ai tenu, en gros, c'est par conviction et surtout parce que je voulais montrer l'exemple, parce que je suis têtu aussi, j'imagine. Mais le deuxième Noël, j'ai eu la chance d'avoir un petit repas adapté pour le petit écolo végétarien de la famille. Donc, ça vient petit à petit. Si j'avais un peu plus de talent culinaire, je pense que je m'y mettrais moi-même pour prouver qu'on peut faire aussi des bons repas de Noël. Mais c'est difficile, effectivement. Enfin, j'imagine, et encore, je consomme un tout petit peu d'alcool pendant les fêtes, mais si tu es français, je fais cette blague souvent, mais si tu ne manges pas de viande et pas d'alcool, enfin, les repas de Noël, ça devient un peu plus difficile, quoi.
Bon, en fait, j'ai menti. J'avais une dernière question. Qu'est-ce que Thomas, avec son expérience, pourrait me conseiller maintenant pour aller plus loin dans ma transition écologique?
À partir du moment où les gens ont déjà fait les efforts et qu'un effort supplémentaire demande vraiment beaucoup ou trop d'efforts, le plus important, c'est d'informer d'autres personnes. Je suis certain, avant, même sans te connaître personnellement, qu'il y a plein de gens dans ton entourage qui sont pas du tout au fait de ces sujets-là. Donc je pense que si tu dois consacrer du temps aujourd'hui, plutôt que consacrer à toi et à progresser, entre parenthèses, c'est aider les autres.
Ok, je sais pas si ça va être, simple, mais je vais suivre son conseil. Je vais essayer d'aider mes proches, faire de la pédagogie sur l'écologie. Je descends en train demain, justement, pour les fêtes de fin d'année en famille. J'appréhende un peu ce Noël, mais bon, on va voir, hein, avec les parents, les grands-parents, les cousins, ça risque d'être un peu chaud, parce que pour le coup, ils sont pas du tout écolos, mais on va essayer de faire de la pédagogie. Je vous tiens au courant. À suivre dans le prochain épisode.
Tu vois, quand je te dis ça serait cool qu'on aille à Vienne et que tu me dis on peut y aller en train, flemme. Franchement, genre ok, je sais que c'est pas bien pour la planète et tout, mais on va pas se faire 18 heures de train contre 1h30 ou 2 heures d'avion.
Super Green Me est un podcast indépendant, écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltritti. À la production et l'édition, Mathilde Mélin. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast, si vous le pouvez. C'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.